ça change de l'économie habituelle.
Il y a une autre manière de voir les choses.
La richesse humaine.
Une recherche d'harmonie dans l'économie un peu.
Replacer les êtres humains au centre des échanges directs.
Je vois bien l'idée, mais j'ai du mal à mettre des mots là-dessus.
Économie sociale et solidaire.
Économie sociale et solidaire.
Économie sociale et solidaire.
Les rendez-vous de l'ESS.
Les rendez-vous de l'ESS.
Les rendez-vous de l'ESS.
Vous écoutez Timbre FM sur le 106.6. C'est l'heure du feuilleton de l'économie locale.
Qu'est-ce que l'économie locale ?
L'économie locale, ça représente l'énergie qu'on peut trouver sur un territoire.
Qu'est-ce que tu entends par énergie ?
Des sujets qui concernent, par exemple, pour le pays de Plouermel, la ruralité dans son sens large, puisque dans un milieu rural, et plus concrètement, sur l'accès au foncier pour les paysans, ça va être la valorisation du bois au niveau local, ça va être les questions d'habitat participatif et du vieillissement.
Et toi, tu fais quoi dans l'économie locale ?
Je travaille pour la dynamique essentielle Plouermel, qui s'est lancée en 2013, et j'essaye justement de mettre en valeur cette petite économie locale qui s'active tous les jours pour son territoire.
Bienvenue à Timbre FM sur le 106.6 pour l'émission Le feuilleton de l'économie locale. Émission qui souhaite partager auprès du plus grand nombre des soirées d'échanges et de discussions lors des blablas de l'ESS organisées par Localidé. Ces soirées se déroulent tous les derniers mercredis de chaque mois à l'estaminet du Champ commun à Augan. Localidé, association qui accompagne des projets de développement local comme la coordination de l'étude en cours avec la dynamique essentielle Pleu-Hermel. Celle-ci a pour objectif de créer un pôle de développement de l'économie sociale et solidaire sur le pays de Pleu-Hermel. Les pôles de l'ESS, comme on les appelle, ils existent à l'échelle des pays bretons. En Bretagne, nous comptons 21 pays. 15 pôles existent aujourd'hui, en espérant qu'il y en aura 18 pour 2017, bien sûr. Essentiel Pleu-Hermel est porté par des acteurs qui veulent agir et réfléchir ensemble pour trouver des réponses à leurs besoins et leurs questions. Parce qu'on a plus de force et de plaisir à plusieurs que tout seul, il s'agit d'un réseau ouvert à toute structure ou citoyen qui se reconnaissent dans les valeurs de l'économie sociale et solidaire et qui souhaitent agir pour leur territoire. Grâce à cette émission, nous mettons en avant les thématiques qui correspondent à l'énergie de notre territoire en collaboration avec Localidé. En août 2016, le sujet était « Pratiquer en collectif et autres initiatives pour sauvegarder la médecine générale ». Ces soirées donnent la parole à un témoin sur un sujet donné qui permet l'expression de chacun et de partager avec les citoyens sur des sujets de notre environnement. Pour le feuilleton de l'économie locale « Pratiquer en collectif et autres initiatives pour sauvegarder la médecine générale », dans le second épisode, on parlera des différents modèles possibles qui rendent notre territoire attractif pour les nouveaux et futurs médecins, avec un parallèle sur la relation aux élus et le monde de la médecine libérale.
On n'est pas du tout dans une zone désertique d'après les critères nationaux. On est exactement à la moyenne. Ça veut dire qu'il y a plus de la moitié des communes de France qui sont moins bien loties et plus de la moitié qui sont mieux loties. Voilà.
Vous parlez de désert médical. Dans le Midi, on n'en parle pas. Ça n'a pas lieu.
Tout à fait.
Bon.
Il y en a aussi parce que dans le Midi, il y a l'arrière-pays et il y a la côte. Comme ici, il y a le littoral et il y a la côte.
Moi, j'ai la sensation quand même que le diktat médical existe aussi. Mélangé avec la politique qui détient les rênes, voilà ce que ça donne aujourd'hui. Est-ce que les médecins ont du pouvoir sur les politiques ou les politiques ont du pouvoir sur les médecins ? Parce que là, on parle de santé et en définitive, ce sont les gens qui sont malades qui payent la facture. Qui d'autre part, votre maison médicale est très louable. Je trouve que c'est un beau projet. Mais est-ce qu'il y aurait des médecins avec une tendance sociale, justement, qui pensent aux gens malades, ne pourraient pas faire comme vous, ou s'associer aussi avec des infirmiers, avec toute une pléiade de spécialistes. Et dans votre maison médicale, est-ce que vous avez pensé aussi que, ne vous vexez pas, mais pour moi, il y a des médecins conventionnels et les médecins qui pratiquent aussi les médecines alternatives, les deux sont compatibles. Et est-ce que tout le monde pourrait travailler ensemble ? C'est-à-dire, est-ce que si vous avez un médecin à médecine alternative, vous l'acceptez parmi votre groupe pour faire partie de la maison médicale ?
Alors, le problème ne se pose pas tout à fait comme ça. Tout simplement parce que les murs ne sont pas extensibles et qu'aujourd'hui, c'est nous, on s'est choisi entre confrères pour travailler ensemble parce qu'on avait envie de travailler ensemble. Dans les médecines alternatives, je ne sais pas ce que vous mettez dedans.
Médecine homéopathique, la naturopathie, les huiles essentielles. Comme par exemple, citons M. Guiton, qui a pratiquement fermé son cabinet à Ploërmel, qui est allé en faculté pour essayer de trouver un médecin, un remplaçant pour pouvoir prendre sa suite. Il n'y en a pas.
Alors, je ne sais pas s'il n'y en a pas, mais...
Mais il en trouve.
Oui, il n'en trouve pas, ça je suis d'accord. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe pour M. Guiton ? Il travaille tout seul.
Eh oui.
Voilà. Et donc, aujourd'hui, je ne connais pas d'interne, je ne connais pas d'étudiant, mais pas simplement d'étudiant en médecine. Je ne connais pas d'étudiant dans d'autres disciplines qui a envie d'aller travailler tout seul, tout simplement. Donc, la responsabilité est aussi chez les professionnels de se regrouper avant qu'il soit trop tard et de ne pas attendre les 6 derniers mois pour dire « je pars à la retraite dans 6 mois ou dans 3 mois », voire de rien dire du tout. Comme ça arrive encore souvent. Et voilà, moi, je ne peux pas, je peux pas vous dire autrement. Dans notre cabinet, y a, sur les 9 médecins, il y en a 8 qui pratiquent l'hypnose ericksonienne. Le docteur Guiton, il y en a un qui pratique l'homéopathie. On n'est pas du tout fermé à ce genre de choses. Et ça, ça peut se faire n'importe où. Ce n'est pas ça, le problème. Le problème, il n'est pas là. Vous parliez aussi du sud de la France avec cette surpopulation. Effectivement, mais la responsabilité, elle est politique.
Oui.
Et ben, vous avez un bulletin de vote, hein, et vous pouvez voter, et moi aussi. Et votre voix, elle compte comme la mienne, ni plus ni moins.
Actuellement, elle ne sert pas à grand-chose.
Ben, ça, c'est un autre problème. Mais voilà, je voudrais, faut quand même remettre les choses à leur place. Moi, je fais partie des médecins qui pensent que c'est une aberration de laisser l'installation libre comme elle est aujourd'hui. Elle devrait être au moins régionalisée. Ce n'est pas normal que des facs reçoivent des financements publics pour former des médecins qui, ensuite, ne vont pas rester dans cette région-là. Bon, mais ça, c'est mon avis. Et dans la profession, on n'est pas tous d'accord. Donc, mon avis n'engage que moi. Et même à Ploërmel, on n'est pas tous d'accord quand on parle de ça. Voilà. Mais ça, c'est des questions de société, c'est des choix politiques. Et ben, il faut avoir le courage de prendre ses responsabilités. Et là, je renvoie la balle aux élus. Nous, on essaye de s'organiser comme on peut dans l'environnement qu'on a. Si l'environnement change, on fera autrement. Alors, ce que je n'ai pas dit, j'aurais dû le dire d'emblée, c'est que dans cette maison de santé, j'ai parlé des médecins, mais il y a aussi 3 orthophonistes. Il n'y en avait qu'une quand on est arrivé. Le fait d'être dans cette maison de santé, ça a attiré 2 autres orthophonistes. Il y avait 2 infirmières, elles en ont attiré une troisième. Et il y a 3 psychologues, voilà, qui travaillent. On avait un ostéopathe. Ils sont 2 maintenant. Donc, en fait... Ça crée une dynamique, ça augmente le potentiel de soins du secteur. Aujourd'hui, on a une offre de soins dans le canton qui est beaucoup plus importante qu'avant. Et à mon sens, on est obligé de penser en pays, en canton, et non pas en commune. C'est aussi simple que ça.
Moi, j'ai l'impression en fait, que vous êtes en train de faire avec les moyens du bord. Parce que en fait, on est en plein fonctionnement libéral. Hein. Là, il y a un désengagement total de l'idée d'un service public accessible à tous. Moi, j'ai pas envie de rentrer dans le débat sur la question de la profession libérale, parce que là, on ouvrirait une boîte de Pandore assez importante et qui relève pas uniquement de la question d'ailleurs de la médecine et du médecin. Mais je trouve que justement, ça rebondit un peu sur les derniers mots que vous avez eus sur la question de à quelle échelle on réfléchit aujourd'hui. Pour essayer de s'organiser. Alors moi je crois à l'État-nation. Enfin, je pense que c'est une échelle importante. Il faut qu'on arrive à penser les choses en termes de solidarité nationale. Encore aujourd'hui, sur la question de l'accès au droit à la santé. Moi, j'ai vécu 6 ans en Amérique du Nord. Je sais ce que c'est un pays où il n'y a pas accès à la santé. C'est juste assez dramatique en fait de constater qu'il faut du pognon pour pouvoir vivre en bonne santé. On est dans la voie descendante actuellement dans l'idée du droit à la santé en France, clairement. Donc je n'ai pas envie de renvoyer la responsabilité aux médecins. Il y a des choses sur lesquelles on pourrait discuter en termes d'accès aussi au nombre de, par exemple, d'internes, la question de l'obligation. Moi, je vous rejoins aussi sur l'idée qu'à un moment donné, il y a quand même des fonds publics qui sont investis pour permettre à des gens de se former. Il devrait y avoir une contrepartie sur une obligation sur un certain nombre d'années, comme ça, c'est encore dans beaucoup de pays qui ont été d'ailleurs, à l'époque, influencés par la France. Donc, par contre, je pense que ce qui est peut-être intéressant, c'est peut-être de se dire qu'à l'échelle d'un pays comme celui de Ploërmel, on essaie de trouver aujourd'hui des solutions qui pourraient arriver à une réflexion autour de... Je pense à deux choses, en fait. Je pense au dispensaire africain. C'est-à-dire, un dispensaire, c'est un endroit où on peut venir se faire soigner. On cherche l'échelle de territoire qui est la plus significative parce qu'on a envie de pouvoir avoir une efficacité en termes d'accès et en termes de nombre de personnes qui peuvent être mises à disposition au regard des moyens mis en commun. Hein. En commun soit-il, en fait. À un moment donné, il faut parler de cette efficacité-là. Et l'autre modèle qui me semble aussi assez intéressant, c'est le modèle du CLSC québécois. Donc au Québec, il y a une échelle aussi qui est pensée en termes de territoire, qui est celle, entre autres, en ville du quartier, ou une échelle qui est celle assez proche de la dimension cantonale, où on crée en fait un lieu qui, contrairement à l'hôpital qui est spécialisé purement médical, et ça rejoint un peu ce que tu disais sur l'ouverture d'autres approches, parce que la santé, c'est pas uniquement en fait l'acte médical, hein. La santé, c'est la santé psychologique, c'est la santé mentale, c'est la santé physique, c'est le bien-être. Bon, enfin, on pourrait aussi réouvrir la boîte de Pandore, mais le CLSC, c'est cette ouverture du médico-social, c'est-à-dire on se met ensemble, on se pense ensemble et on a une approche globale, en fait, des êtres humains qui vivent sur un territoire où on pense avec la famille, on pense avec les communautés dans lesquelles on vit, on pense avec le rapport au travail, etc. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est dans une phase où il faut que les professions dites libérales ou associatives, hein, je pense par exemple à la médecine du travail, enfin, chacun un peu dans son coin, chacun fait comme il veut pour s'en sortir. Moi, j'ai rencontré que des médecins qui avaient envie de me soigner. Je n'ai pas rencontré des médecins qui avaient envie de s'en foutre plein les feuilles. Ça existe, hein. Mais j'ai rencontré, là dernièrement j'ai été malade, j'ai rencontré que des médecins qui avaient envie de me soigner. J'ai rencontré que des pharmaciens qui étaient prêts à ouvrir à 23h parce que j'étais aux urgences et qu'il fallait absolument que je récupère mes gouttes. Ils étaient attentifs, ils étaient bienveillants, ils étaient compatissants. Et donc je trouve que c'est ça qui est compliqué aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on arrive à trouver à la fois un modèle qui nous permette de rester dans l'acte de prendre soin des autres et dans l'idée de l'accès à tous, dans des échelles de territoire qui sont sur des problématiques de désertification et qu'on n'a aucun moyen pour le faire. Enfin, je veux dire, quand ils sont là en train de balancer leur prime à 50 000 euros pour favoriser l'installation, pour moi, c'est du bricolage, quoi.
Et ça ne marche pas.
Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et je pense que... Enfin, je ne sais pas ce que vous pensez de cette idée de réfléchir sur des modèles qui sont des vieux modèles, au final. Hein.
Alors, ils existent. Hein. Ils existent déjà. Le dispensaire dont vous parlez, ça s'appelle des centres de santé. Et, alors, il n'y en a pas ici, mais dans les grandes villes, notamment à Paris, il y en a beaucoup. Et c'est même une... Ça va devenir, je pense, malheureusement... Enfin, j'ai envie de dire un peu malheureusement. Enfin, ça va devenir un peu le modèle parce que Paris, l'Île-de-France, c'est 25% de pertes de médecins généralistes en 10 ans, dans les 10 dernières années. Tout simplement parce qu'à partir du moment où on a un tarif de consultation qui est conventionné, le tarif est conventionné, donc le gain est conventionné et limité. On ne va pas voir 300 patients dans la journée, ce n'est pas vrai. Hein, donc les médecins en France, ils voient 20, 25, 30. C'est une moyenne, avec des gens qui vont beaucoup plus. Mais à Paris, les loyers, ce n'est pas les loyers de Ploërmel. Hein. Donc quand vous avez votre loyer en plus, ben là, ça ne vaut plus du tout le coup. Donc on quitte Paris pour aller dans un endroit où les loyers sont moins chers. Donc effectivement, tout à l'heure, en introduction, vous disiez que le problème de la désertification, c'était rural. C'est pas que rural. Et c'est autant dans les grandes villes que dans les très grosses métropoles que dans les fins fonds des campagnes. C'est le service de façon générale. Tout à fait. C'est le service de façon générale. Et ça, qui est-ce qui décide qu'on ferme une poste? Qui est-ce qui décide qu'on va fermer une classe dans une commune? Qui est-ce qui va faire que l'épicier, finalement, il va mettre la clé sous la porte? Voilà, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Et la santé, vous avez tout à fait raison, la santé, c'est pas que la médecine. C'est pas que le soin infirmier. C'est le bien-être général de la personne dans son environnement. Donc, il faut agir sur tout ça.
Que l'État joue quand même sur la corde sensible, que c'est eux qui tiennent les manettes, que nous sommes tous des victimes et que la santé égale argent. Parce que bon, c'est évident dans votre discours, bon, que vous connaissez bien, il y a quand même l'argent. Le médecin qui est à Paris, évidemment, a des loyers énormes. Il ne va pas faire 30 patients dans une journée, s'il en fait 50 ou 100. D'accord ? Mais là, il y a l'argent, il y a la santé. Mais la santé, elle n'a pas de prix et elle ne doit pas, surtout pas, avoir un lien étroit avec l'argent. Parce qu'on ne se sortira jamais du merdier dans lequel on est.
Elle n'a pas de prix, mais elle a un coût. C'est tout, hein ?
Et l'idée de tout quitter dans son esprit a résonné. Fini les bruits de la ville, les files d'attente. Fini les fils électriques, les briques et l'amiante. Loin du vacarme et de l'agitation, l'ermite a trouvé le calme nécessaire à sa méditation. Quand le soleil se lève, l'euphorie l'envahit. Il ouvre ses oreilles et rêve du clapotis de la pluie. L'ermite connaît l'ivresse de ceux qui gravissent l'Everest. Il a oublié le mot stress et tous ses titres de noblesse. Tel un artiste, il tisse son univers céleste. Il maîtrise ses gestes, n'a pas l'air triste, mais preste. Son visage brille comme 10 000 flammes, mais des milligrammes de regrets apparaissent en filigrane. Nos vies s'effritent quand nos envies ne s'expriment pas, mais lui les vide à l'air libre, l'ermite ne déprime pas. Non. Il est enveloppé de mystères, habité par l'errance, le désert et sa terre, il y cultive du silence. L'ermite a fui la termitière, attiré par l'immense, ses seules héritières sont ses pensées qu'il écrit sans urgence. Le mythe de l'ermite, le mythe de l'ermite, c'est le mythe de l'ermite.
Je voulais intervenir parce que le docteur qui était à Carreau est donc parti avec vous à Ploermel. Est-ce que ça n'aurait pas été possible qu'il puisse rester une journée ou une journée et demie par semaine consulter pour les gens qui étaient ses patients du secteur, en fait ?
Si, ça aurait été possible, bien sûr. C'est des modèles qui aurait été possible. Nous, à Loya, on a proposé à la commune de pouvoir rester, et comme vous le dites, de venir, on était deux, on venait chacun un jour par semaine sur Loya, dans une salle communale mise à notre disposition. Ça a été refusé par la commune. Ce qui ne les a pas empêchés, un an plus tard, ou deux ans plus tard, de réhabiliter totalement l'ancienne poste qui avait été fermée entre-temps, bien sûr, puisqu'il n'y a plus de service public là-bas, de fermer la poste, de la réaménager en maison en cabinet médical et de faire venir un médecin roumain dans ce maison pour lequel il n'a pas de loyer, puisqu'il a même une prime, comme les primes dont vous parliez, de revenu minimum. Voilà. Donc si, c'était tout à fait faisable, mais au moment où on en a parlé, les politiques n'étaient pas prêts à faire ce genre d'approche. La démarche des... Nous, quand notre maison de santé était au départ à Loya, alors là, vous me mettez sur un sujet où je suis un peu remonté. Notre maison de santé, avec mon associé, était dans une location en ville. C'était une maison d'habitation qui n'était pas du tout adaptée à la confidentialité. On entendait tout, puisqu'il y en a un qui consultait dans la chambre, l'autre dans la salle à manger, et la secrétaire était dans la salle de bain. Pour vous donner un petit peu la configuration, quand on a cherché à construire une maison de santé un peu plus digne de ce nom, avec des cloisons isophoniques, etc., et de la surface et des portes assez grandes, on a demandé un terrain en ville à la mairie qui a refusé de nous en vendre un. Donc on est allé construire dans le lotissement. Et le lotissement, il n'est pas très loin, mais il est quand même à 300 mètres du bourg. Et donc, au bout d'un moment, on a demandé à la commune s'ils ne pourraient pas mettre un banc à mi-chemin pour les patients qui venaient à pied. On nous a répondu, c'est votre problème, vous êtes des libéraux. Ben, voilà, c'est ça la réponse de la commune. Donc, voilà. Donc, au bout d'un moment, nous, on a dit, OK, on est des libéraux, on se barre. Il a bien voulu venir à Plouermel. Il aurait pu rester éventuellement, il aurait pu trouver une solution de cette façon-là. Ça, c'est son choix. En même temps, je ne vois pas pourquoi... Pourquoi est-ce que c'est à lui de supporter le coût d'un loyer supplémentaire? Parce que le loyer du local dans lequel il va être, qui c'est qui le prend en charge? C'est lui qui loue un local pour une semaine et il y vient qu'un jour par semaine ou deux jours? Et, ou est-ce que ça fait partie d'une prise en charge plus générale de la communauté? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Mais c'est effectivement quelque chose qui aurait pu être fait. Nous, on avait demandé à Loya. On avait proposé. On a proposé au maire, voilà, écoutez, nous, on vient chacun un jour par semaine dans une salle que vous mettez à notre disposition. Et on fournissait le matériel. C'était parce qu'on voulait avoir le matériel dont nous, on avait besoin. Mais ça a été refusé. Bon, ben, tant pis.
Moi, je suis élue à Carentoire sur la liste minoritaire. Mais dans notre programme, on avait mis ce point important de faire en sorte de faire venir des médecins remplaçants. Puisqu'il y en a un qui est déjà parti sur les trois, il y en a un qui est parti il y a deux ans, et le prochain doit partir l'année... Non, en 2017, ouais. Et puis, voilà, il y a aussi un kiné qui va partir la même année, etc. Donc il y avait une maison médicale qui a été mise en place par les deux médecins, donc il y a une trentaine d'années, plus un kiné et un dentiste. Le dentiste est décédé. Il y a des dentistes qui sont arrivés, mais bon, pour des questions, bon, on ne sait pas trop ce qui se passait, mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas eu de médecin qui est revenu. Il n'y a peut-être pas eu non plus beaucoup de recherches. Enfin, peu importe. Récemment, les médecins ont proposé cette maison médicale à l'achat, ont proposé à la mairie de l'acheter. Donc, ça pose des problèmes. Parce qu'effectivement, y a des gens qui se disent « Ah, mais c'est un truc privé. » pourquoi on paierait, et pourquoi ceci, et pourquoi cela, ils sont libéraux, et ni ni ni, et ni ni. Voilà. Donc,
je comprends.
Non, mais réellement, et ça veut dire que donc, si ça ne se fait pas, les médecins, ils vont. Enfin, celui-là, il va s'en aller, et le reste va suivre. Et malheureusement, en plus, on a du mal à savoir quelles sont les relations entre les. Les gens qui tiennent la mairie, et puis les médecins. Parce que tout ça, c'est des histoires de personnes et de pouvoir, des relations de pouvoir aussi. Donc ça, c'est assez compliqué.
La politique, ça n'a toujours été que des relations de pouvoir. D'accord.
Donc quand on découvre ça, c'est assez bizarre au début. À côté de ça, je voulais juste ajouter... Donc, j'ai vu il n'y a pas très longtemps, donc moi j'avais envoyé... J'ai vu, par exemple, Ruffiac a mis une annonce dans le Bon Coin pour trouver un médecin. Ils ont trouvé un médecin. La mairie a mis à disposition un local. Et puis, là, tout à coup, maintenant, on va faire du generalist dating. Donc il va y avoir un film qui va être fait... demain, normalement, est présenté à la faculté de Rennes le 17
et de Brest.
Novembre. Voilà. Donc, on attend de voir.
Alors, ça, c'est une initiative de l'ARS, de l'Agence régionale de santé, à laquelle on est associé... ça passe sur les ondes, donc il y a des choses que je ne devrais pas dire, mais ce n'est pas mon style. Donc, on n'est pas d'accord avec ce mode de pratique, ce generalist dating, où les communes présentent un petit film de quelques minutes et les étudiants voient passer une vingtaine de présentations et ensuite vont dans des stands présentés par chaque commune. Nous, le département de médecine générale n'a pas participé l'année dernière. Enfin, on y a participé parce que institutionnellement, on est obligé, mais physiquement, on n'y était pas. En même temps, la commune de Campagnac est dans cette problématique d'un médecin qui part là, ces jours-ci. Ils ont engagé une réflexion depuis déjà de nombreux mois, très intéressante, en partant du principe que c'est intéressant d'abord de demander aux professionnels qui veulent venir de quoi ils ont besoin avant de construire quelque chose qui ne correspondrait pas forcément aux besoins. ça ne suffit pas pour le moment. Hein, il y avait un samedi matin d'organiser avec de la publicité auprès des internes pour qu'ils viennent à Campénéac un samedi matin, qu'on leur présente un petit peu les choses qui pouvaient se faire. Ben, ça a fait chou blanc, les internes ne sont pas venus. On n'a aucun moyen d'obliger des internes à venir passer un samedi matin à Campénéac. Voilà. Ni à Carantoire, ni ailleurs. Donc, on se rabat sur ce generalist dating, et puis la commune fait un film, et puis voilà. Ça... On essaye de... C'est du bricolage, hein. C'est vraiment du bricolage, comme vous disiez. Nous, notre maison de santé, on l'a construite nous-mêmes. On est des libéraux, comme vous l'avez dit, et on n'a aucune subvention publique pour la faire. La commune de La Chapelle-Carreau a construit la maison de santé de La Chapelle-Carreau, qu'elle loue à une somme très modique aux professionnels qui y travaillent, que ce soit la diététicienne, les kinés, les médecins, etc. Ça, c'est des choix politiques. C'est des choix politiques. À Josselin, c'est la région qui a financé pour une fortune aussi une maison de santé dans laquelle on a du mal à garder des médecins. Voilà. Il y a des fonds publics. Qui est-ce qui décide qu'on les utilise ? Qui est-ce qui décide qu'on ne les utilise pas ? Et pour faire quoi ? Ça, c'est notre, notre responsabilité d'électeur, pour moi. J'en vois pas d'autres.
Moi, j'ai envie de prêcher un peu pendant la paroisse, en fait, hein, par rapport à cette situation. Je suis quelqu'un qui défend l'idée vraiment d'un service public. Je pense que les modèles de solidarité qu'on a mis en place à travers les différentes formes de prélèvements, qu'on appelle des cotisations sociales, entre autres, qui permettent d'organiser les différents services communs et collectifs qu'on a mis en place autour de la santé, l'éducation nationale, j'en passe et des meilleurs, font partie des modèles de bien vivre qui me semblent être le plus intéressant, ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas être critique pour essayer de les faire progresser, toujours chercher à faire mieux. Hein. On ne peut pas s'arrêter uniquement à une forme de moyens et une forme organisationnelle telle qu'elle est mise en place encore actuellement. Mais je me dis que dans l'idée peut-être libérale dont on parle, il y aurait peut-être la possibilité de réfléchir à quelque chose qui appartiendrait conjointement à la fois aux professionnels, à la fois aux collectivités locales et à la fois aux citoyens directement. Je dis que je prêche pour un paroisse tout simplement parce que vous êtes dans un lieu qui est sous cette forme-là, à l'exception pour l'instant de la participation des collectivités territoriales, mais qui dans la forme juridique le permettrait. C'est-à-dire que ce commerce pourrait appartenir également à la commune. Il appartient aujourd'hui à 5 associations, il appartient à 140 citoyens, il appartient à des producteurs locaux, à d'autres entreprises. Donc on est vraiment autour de ces 156 associés, des gens qui prennent leurs responsabilités ensemble. Ce que moi je trouve assez intéressant dans les différents propos qu'on a pu avoir aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas renvoyer la responsabilité uniquement aux médecins et à leur capacité à pouvoir lever les moyens eux-mêmes et à faire face aux politiques sur ces questions-là, qu'ils soient très locaux ou très nationaux. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir une approche critique de ce que peut être aujourd'hui le statut d'un médecin, parce qu'il y a des différences en fait, sociales qui existent encore dans la différenciation entre des rémunérations. Moi, je suis commerçant, je gagne 1 200 € net par mois. Je peux vous dire que je travaille facile 60 heures par semaine et je pense offrir un service à la communauté. Donc, je n'ai pas envie de rentrer là-dedans parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est en route. Il y a quelque chose qui doit dépasser cette question-là, même si elle est centrale. L'égalité, il faut la rechercher, ou du moins le juste. Moi, je crois au juste. Par contre, je pense qu'on a tout intérêt à surtout essayer de trouver des modalités pour essayer de reprendre la main sur des enjeux très locaux. Parce qu'au final, il faut garder cette veille et cet engagement collectif à travers des associations ou même la participation à des partis, hein, moi je ne jetterai pas le bébé avec l'eau du bain, hein, pour essayer d'être dans des échelles qui sont celles de la région, du département, parce que c'est encore une entité qui existe, ou demain encore plus les communautés de communes, parce que ça va être ça demain sur lesquelles il va falloir commencer à vraiment se mobiliser en tant que citoyen pour avoir l'idée qu'à une échelle qui est celle de la communauté de communes, qui va devenir à une grosse échelle en plus, hein, vous avez vu qu'on est en train de passer sur des niveaux de densité de population qui doivent être soi-disant plus conséquents, soi-disant plus significatifs, à mon avis c'est une fumisterie, mais bon, dans tous les cas, on doit y être pour réussir à se penser ensemble. Et non pas chacun dans son coin en essayant de tirer le meilleur bénéfice pour son simple intérêt. La santé, c'est un intérêt collectif. Et je pense qu'il y a des modalités qui pourraient être très intéressantes. Et peut-être, moi, je défends le service public, mais je pense qu'à un moment donné, il faut aussi mettre les patients, pour pas dire consommateurs, parce que ce mot-là, en fait, me dérange fortement, mais les patients sont aussi responsables à la fois de leur santé, mais également de leurs moyens de santé. Et de pas juste attendre, parce qu'on a sa carte vitale, que... Non, le droit, il existe parce qu'on l'entretient et qu'on est aussi responsable de son droit. Voilà. Enfin, moi, je trouve que ce serait des portes qui seraient intéressantes à réfléchir, parce qu'on n'a pas vraiment parlé de ce partenariat-là.
C'est très intéressant. Moi, il y a beaucoup de maisons de santé. Nous, on n'a pas été jusque-là pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le faire, mais je connais d'autres maisons de santé qui ont intégré, qui ont mis en place un conseil d'administration dans lequel il y a des associations d'usagers, par exemple. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai proposé à la faculté pour le conseil d'administration du département de médecine générale. Les statuts sont en rediscussion depuis un an, donc c'est pas fait. Mais nous, on a dit pourquoi est-ce que les usagers n'interviendraient pas à titre consultatif dans l'organisation de la formation des futurs médecins. Voilà. Tout ça, c'est faisable. Mais ça, c'est des choix qui ne dépendent pas que d'une personne.
La suite au prochain épisode. Retrouvez-nous demain matin à l'antenne de votre radio locale, même heure, même station, pour découvrir la suite de ces échanges. Les blablas de l'ESS se déroulent les derniers mercredis de chaque mois au Champ commun. Vous pourrez trouver plus d'informations sur essentiel-du6pleuermel.fr, également sur la programmation du Champ commun ou encore à l'occasion d'annonces radiophoniques sur Timbre FM.
Ça change de l'économie habituelle.
Il y a une autre manière de voir les choses.
La richesse humaine.
Une recherche d'harmonie dans l'économie un peu.
Replacer les êtres humains au centre des échanges directs.
Je vois bien l'idée, mais j'ai du mal à mettre des mots là-dessus.
Économie sociale et solidaire.
Économie sociale et solidaire.
Économie sociale et solidaire.
Les rendez-vous de l'ESS.
Les rendez-vous de l'ESS.
Les rendez-vous de l'ESS.